VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du mardi 21 janvier 2020. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia.
Et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Fin aujourd'hui de la visite de 72 heures en République centrafricaine du secrétaire d'État adjoint américain Tibor Nagy.
La ministre française des Armées, Florence Parly, annonce de nouvelles opérations militaires à venir contre les djihadistes dans la zone dite des trois frontières, Mali, Burkina Faso et Niger.
En Côte d'Ivoire, les évêques se disent préoccupés avant la présidentielle d'octobre 2020 et parlent de climat de peur.
Un homme de 89 ans est devenu la quatrième personne à succomber au nouveau virus qui s'est répandu à travers la Chine.
Ici à Washington, le procès en destitution du président Donald Trump entre dans le vif du sujet ce mardi au Sénat.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, fin aujourd'hui de la visite de 72 heures entamée dimanche par le secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines. Tibor Nagy a été reçu hier par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Ils ont évoqué plusieurs questions, dont les prochaines élections dans le pays de Bangui, correspondance de Freeman Sipila.
Au centre des échanges entre les deux personnalités, la sécurité, la justice, les élections, l'économie, mais aussi le soutien des États-Unis à l'émancipation des jeunes. Tibor Nagy réaffirme à Faustin Archange Touadéra le soutien de son pays au processus de paix lancé par les autorités nationales.
I also wanted to express my support for His Excellency the President and his government.
Je suis là également pour apporter mon soutien au président de la République et son gouvernement.
A government which was elected democratically in 2015.
Un gouvernement qui a été démocratiquement élu en 2015.
And to say that we oppose any and all forces that would like to destabilize the elections or to continue to destabilize the country.
Et nous exprimons également ce soutien au gouvernement tout en nous opposant à toutes les forces ou les entités qui veulent bloquer le processus ou déstabiliser le gouvernement.
Alors que les Centrafricains sont attendus aux urnes en décembre prochain, les États-Unis souhaitent des élections libres et transparentes dans un climat de paix. Aussitôt après l'entrevue avec le président centrafricain, M. Nagy a échangé avec les jeunes étudiants de l'université de Bangui et avec les bénéficiaires du programme YALI, Young African Leaders Initiative. Le sous-secrétaire Tibor Nagy est le plus haut responsable américain à se rendre en République centrafricaine depuis la visite de l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Samantha Power, en 2016. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé hier à Bamako de nouvelles opérations militaires à venir dans la zone dite des trois frontières, Mali, Burkina Faso et Niger, où la France et ses alliés entendent concentrer leurs efforts contre l'expansion djihadiste. C'est ce que Mme Parly a dit, sans autre précision, à des journalistes après avoir été reçue avec ses homologues suédois, estoniens et portugais par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Florence Parly était en visite dans la sous-région pour mettre en œuvre les conclusions du sommet de Pau en France, qui a réuni une semaine plus tôt le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel, Mali, Niger, Burkina, Tchad et Mauritanie, confrontés à l'escalade des violences djihadistes.
De nombreux djihadistes ont été tués lors d'affrontements entre groupes rivaux dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris de sources concordantes lundi. Les combattants de Boko Haram, fidèles à Aboubakar Shekau, venus à bord de pick-up, ont attaqué un camp d'un mouvement rival, la branche africaine de l'État islamique, près de la frontière du Niger. Ils tentaient, dit-on, d'obtenir le retour de leurs femmes qui avaient été enlevées par les combattants rivaux au cours d'un raid au Niger voisin.
En Côte d'Ivoire, les évêques réunis en assemblée plénière se sont dit hier, dans une déclaration, préoccupés par ce qu'ils ont appelé un climat de peur avant la présidentielle d'octobre 2020. Le point avec Ekia Badou.
Les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, dans une déclaration, évoquent les mutineries qui ont ébranlé le pays en 2017 ou des affrontements interethniques comme ceux de Béoumi qui avaient fait 16 morts en mai 2019. Progressivement s'installe dans notre pays un climat de peur et de terreur, écrivent les archevêques, qui estiment que les prochaines élections doivent être transparentes, crédibles et pacifiques pour que tous acceptent les résultats. Ils exhortent le pouvoir exécutif à garantir aux personnes et aux institutions, et notamment la commission électorale indépendante, une totale indépendance. Comme toute compétition, les élections ont besoin d'un arbitre. Si l'arbitre est à la fois joueur et arbitre, la fin de la compétition est déjà connue, soulignent les prélats ivoiriens. Ils notent que la question de l'indépendance des structures devant arbitrer ses joutes électorales, comme la CEI, divise et cristallise encore les tensions. L'opposition dénonce depuis des mois la nouvelle commission électorale qu'elle dit illégale et illégitime.
Un groupe d'experts des Nations Unies a affirmé hier qu'il ne possédait pas de preuves crédibles de la présence de paramilitaires soudanais aux côtés du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, contrairement aux affirmations des médias locaux. Mais selon le même groupe d'experts, de nombreux combattants arabes de la région du Darfour et du Tchad voisin combattent en tant que mercenaires à titre individuel en Libye.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Chine a annoncé mardi un quatrième mort, victime d'un mystérieux virus semblable au syndrome respiratoire aigu sévère et transmissible entre humains, alors que l'Organisation mondiale de la santé s'apprête à tenir mercredi à Genève une réunion d'urgence. Il s'agit d'un homme de 89 ans qui a succombé à des difficultés respiratoires dans la ville centrale de Wuhan, où la grande majorité des contaminations ont jusqu'à présent été recensées. Dans toute la Chine, il y en a eu plus de 200. Le virus touche désormais plusieurs grandes villes dont Pékin et Shanghai et trois autres pays d'Asie, Japon, Corée du Sud et Thaïlande. Les mesures de prévention se multiplient aux aéroports accueillant des vols en provenance de Wuhan, notamment aux États-Unis, en Thaïlande, à Singapour et en Australie.
Ici à Washington, le procès en destitution du président Donald Trump commence pour de bon aujourd'hui devant le Sénat. Ses avocats ont appelé hier à l'acquittement immédiat de leurs clients. Précision d'Irénée Herman-Umba.
Le procès qui entre ce mardi dans le vif du sujet est une perversion dangereuse de la Constitution, écrivent les avocats du président Trump dans un mémorandum de 110 pages soumis hier à la Chambre haute du Congrès. Le Sénat devrait rejeter l'acte d'accusation et acquitter le président immédiatement, indique-t-il. La défense estime que les chefs d'accusation retenus contre Donald Trump sont clairement infondés, dénonçant par la même occasion un processus illégitime. Le président n'a rien fait de mal, a-t-elle ajouté, rappelant qu'aucun témoin entendu durant l'enquête de la Chambre n'a étayé les accusations directes contre le président Trump. La Chambre, dominée par les démocrates, l'a formellement inculpé pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. Les sénateurs démocrates aimeraient appeler à la barre des témoins comme le secrétaire général par intérim de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney. Les républicains penchent pour d'autres témoins comme Hunter Biden, fils de l'ancien vice-président. Avec 51 sièges, les sénateurs républicains ont déjà la réponse, à moins que des élus républicains fassent défection pour voter avec les démocrates, ce qui est peu probable.
Vladimir Poutine a publié hier ses amendements à la Constitution. Le président russe accélère ainsi le rythme d'une réforme surprise qui nourrit les conjectures quant à son avenir politique après la fin de son mandat. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ce projet de loi publié sur le site internet de la Douma détaille une série de mesures dont le rôle du Parlement dans la nomination du Premier ministre et la limitation des mandats présidentiels à deux au lieu de deux successifs. Il y a aussi le renforcement des pouvoirs d'un Conseil d'État. Tout candidat à la présidentielle devra avoir vécu en Russie ses 25 dernières années sans avoir obtenu de titre de séjour à l'étranger. Les membres du gouvernement, eux, ne pourront plus posséder deux nationalités. Le texte semble exclure tout retour au Kremlin après une parenthèse dans d'autres fonctions, comme Poutine Premier ministre de 2008 à 2012 après deux mandats présidentiels successifs. Il a créé la surprise la semaine dernière en annonçant ces réformes qui ont provoqué la démission du Premier ministre Dmitri Medvedev et son remplacement par Mikhail Mishustin, un haut fonctionnaire réputé mais inconnu du grand public. Ce dernier chamboulement vient relancer les conjectures sur l'avenir politique de Vladimir Poutine à la fin de son mandat en 2024 et il n'aura théoriquement pas le droit de se représenter.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La La Minute Éco, Nanette Talani.
Projet de développement inclusif entre le Cameroun et le Tchad. Les deux pays veulent mettre en service la boucle routière qui les relie via Ngaoundéré-Garoua, Maroua-Kousséri, N'Djamena-Kélo, Moundou-Touboro. Ils ont clarifié puis annoncé la faisabilité du projet en 2023 grâce au soutien financier de la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et l'Union européenne. Les discussions ont aussi porté sur l'extension du chemin de fer du Cameroun au Tchad et de l'interconnexion des réseaux électriques entre les deux pays. Au Soudan, la monnaie est tombée à un record bas sur le marché noir, ont annoncé lundi les commerçants. Le dollar se vendait pour 100 livres soudanaises en transaction en espèces contre 88 livres il y a une semaine, car l'écart avec le taux officiel pour un dollar continue de s'élargir. Pour terminer, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a besoin de 70 millions de dollars pour lutter en urgence contre des essaims des millions de criquets qui menacent la sécurité alimentaire en Éthiopie, au Kenya et en Somalie et qui pourraient s'étendre au Soudan du Sud et en Ouganda. Des efforts pour lutter contre les ravageurs voraces sont en cours dans la région, mais les dons notamment financiers de la communauté internationale apparaissent vitaux compte tenu de l'ampleur et de l'urgence de la menace. La FAO a activé un mécanisme accéléré pour aider les gouvernements à monter une campagne collective pour faire face à cette crise.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Attilio Viviani est le premier maillot jaune de la 15e édition de la Tropical Amissa Bongo.
Oui, l'Italien a réglé le peloton au sprint au terme de la première étape courue hier entre Bitam et Eboloa, 149 km. Il s'est imposé devant le Français Lorenzo Manzin et l'Érythréen Biniam Guirmé. Attilio Viviani a endossé ainsi le premier maillot jaune des leaders du classement général. Il possède 3 secondes d'avance sur l'Érythréen Dawit Yemene et 4 sur Manzin. La Tropicale 2020 se poursuit aujourd'hui avec la deuxième étape entre Bitam et OM, longue de 110 km.
Football avec le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.
La cérémonie aura lieu aujourd'hui au Caire en Égypte. La CAF a présenté les pots. 40 équipes réparties en 10 groupes de 4 chapeaux. Dans le premier figure, l'Algérie, le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, le Maroc, le Ghana, l'Égypte, le Cameroun, le Mali et la République démocratique du Congo. On a dans le pot numéro 2 le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Guinée, l'Ouganda, le Cap-Vert, le Gabon, le Bénin, la Zambie et le Congo. Et puis Madagascar, la Mauritanie, la Libye, le Mozambique, le Kenya, la République centrafricaine, le Zimbabwe, le Niger, la Namibie et la Guinée-Bissau sont logés dans le pot 3. Et enfin, le Malawi, l'Angola, le Togo, le Soudan, le Rwanda, la Tanzanie, la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, le Libéria et Djibouti composent le pot 4.
Sébastien Dussabre revient aux commandes du Wydad Athletic Club.
Sans contrat depuis son départ de Pyramide FC en Égypte, Sébastien Dussabre a rejoint le Wydad Athletic Club. Dussabre s'est engagé pour 2 ans et demi en faveur de l'actuel dauphin de la Botola, entendez le championnat marocain de première division. Il remplace le Serbe Zoran Manolovic, limogé il y a quelques jours. C'est le second passage de l'ancien sélectionneur de l'Ouganda au WAC. Déjà lors de la saison 2016-2017, il a fait un bilan de 9 victoires, 6 matchs nuls et une défaite en 16 matchs.
Carl Toko Ekambi prêté à Lyon jusqu'en juin.
Oui, l'Olympique lyonnais a officialisé le prêt jusqu'au 30 juin de l'attaquant international camerounais en provenance de Villarreal en Espagne donc. Cette mutation temporaire d'un montant de 4 millions d'euros est assortie d'une option d'achat de 11,5 millions d'euros. Formé au Paris FC, Carl Toko Ekambi a évolué en Ligue 2 au FC Sochaux de 2014 à 2016 avant de rejoindre Angers, club avec lequel il a inscrit 25 buts en 2 saisons de Ligue 1. À l'été 2018, il a rejoint Villarreal, marquant 18 buts dès sa première saison, élu en octobre dernier, joueur du mois en Liga. Carl Toko Ekambi a disputé 62 rencontres avec le club espagnol, inscrit 25 buts et délivré 10 passes décisives. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Boston et LA Lakers 139 à 107, oui, une défaite des Lakers de LeBron James. Toronto et Atlanta 122 à 117, Philadelphie et Brooklyn 117 à 111, Milwaukee et Chicago 111 à 98, Oklahoma City et Houston 112 à 107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, le gouvernement appelle ses partenaires sociaux à une trêve de 3 ans. C'est l'une des principales recommandations du Forum de la fonction publique qui s'est tenu la semaine dernière à Libreville. L'option d'une période d'accalmie pour régler les problèmes du salarié gabonais divise la classe syndicale. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Les absents du conclave, comme le regroupement syndical dit dynamique unitaire, n'accordent aucune suite favorable à ces conclusions. Déjà qu'ils n'y avaient pas été conviés, si l'on en croit son coordonnateur Jean-Rémy Yama.
Depuis 2015, dynamique unitaire a toujours été discriminée et aujourd'hui c'est la preuve. Peut-être que ça justifie aussi parce qu'un forum sur la fonction publique de 2-3 jours, c'est pour apporter quoi?
Pour les partenaires sociaux invités par le gouvernement à la table de discussion, la balle est désormais dans le camp de l'exécutif, censé trouver des solutions définitives aux problèmes du travailleur gabonais. Joël Ondoella est président de la COSINAP, la Confédération syndicale des agents de l'administration publique, parapublique et privée.
Nous saisissons le canal du gouvernement, plus particulièrement du Premier ministre, chef du gouvernement, pour transmettre au chef de l'État qu'à travers le forum de la fonction publique et d'autres revendications de l'ensemble de la classe ouvrière gabonaise, les travailleurs, par ma voix, viennent de lui donner encore une passe décisive dans la surface de réparation afin de marquer le but de l'espoir.
Problème, à peine sorti du forum sur la fonction publique, des voix discordantes se font entendre sur le principe d'une trêve sociale de 3 ans voulue par les autorités. Pierre Mitsa, du mouvement social des travailleurs gabonais, vaillant.
Personne ne peut aller signer la trêve sociale si on sait que les postes budgétaires n'ont pas été donnés à tous ceux qui ont été formés dans les écoles nationales. Personne ne pourra signer la trêve sociale si on sait que la pension retraite n'a pas été arrivée. Personne ne signera la trêve sociale si on sait que les situations administratives n'ont pas été régularisées. Ce n'est pas une condition, c'est une obligation.
Côté gouvernement, un dialogue social permanent reste la voie royale de sortie de crise. Madeleine Baird, ministre gabonais de la fonction publique.
Si nous voulons réformer la fonction publique, c'est que nous sommes tous ensemble vers la même démarche. Qui dit réforme, dit acquis et dit renonciation. Dans ces conditions, puisque nous partageons la même vision de la réforme, voulons avancer ensemble dans la réforme. Voulons que ça change. Il faut qu'on travaille au calme, non? Il faut qu'il y ait la paix.
Cette fin du mois, les centrales syndicales appellent à une grande mobilisation des travailleurs gabonais, tout secteur confondu. Une assemblée générale annonciatrice d'une grève générale illimitée sur l'ensemble du territoire national. Libreville, Ismaël Obianze, VOA Afrique.
Au Tchad, persistance de la grogne des grossistes, tenanciers de bars et consommateurs pour protester contre l'augmentation des produits des brasseries du Tchad. 3 semaines après le débrayage, aucune solution ne semble en vue. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, fait le point.
Cette hausse des prix des bières et boissons non alcoolisées, objet de cette colère, est une conséquence du non-renouvellement de la convention d'établissement entre l'État tchadien et le BTT, Brasserie du Tchad. Cette situation qui crée de la mévente risque non seulement de mettre en chômage les employés de cette entreprise, mais aussi les main-d'œuvre à différents niveaux.
Plus de 400 employés directs de Brasserie du Tchad courent le risque d'un chômage technique et de compression si jamais le gouvernement ne réagit pas.
Loué Adoumgar Domti Blanchard, président de l'Union des jeunes nationalistes et une organisation de la société civile.
Cette situation a complètement paralysé le pays. Nos villes vivent un marasme économique et les ménages qui ne vivent que des retombées des brasseries du Tchad boivent du noir depuis quelques jours.
Face au mutisme des responsables des brasseries et du gouvernement tchadien qui refuse de dialoguer pour une sortie de crise, les tenanciers de bars et alimentation de Mundu, capitale économique du Tchad, décident de reconduire la grève. Bekoudjoum Goto Ivaris en est le responsable.
Jusqu'à présent, il y a rien entre les grossistes ni la brasserie. Donc nous avons prolongé encore notre grève. Cette fois-ci, nous demandons aux autorités d'interpeller les brasseries et les grossistes qu'on doit être ensemble pour discuter ce problème.
Pour l'universitaire Dr Sitak Yumbatina Beni, même s'il y a un seul jour de grève dans ce secteur, c'est beaucoup d'argent qui est perdu et cela joue négativement sur l'économie nationale.
Un pays comme le Tchad, on nous a déclaré il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, le premier pays consommateur de la bière. Ça veut dire que sur les 15 millions de Tchadiens, il y a quand même une bonne partie qui boivent de la bière. Donc ça veut dire que non seulement ça a des répercussions négatives sur l'économie familiale, mais par ricochet sur l'économie même nationale. Or aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'économie bat de l'air au Tchad.
Les grossistes affirment avoir versé en moyenne 2 milliards de francs CFA par mois à l'État tchadien pour les taxes sur la valeur ajoutée et impôts sur les revenus de la personne physique, sans compter les autres taxes et impôts additionnels. Ils menacent de mettre dans la rue des milliers de personnes recrutées comme main-d'œuvre si la situation ne change pas. Ndiaghi Denis est le président du syndicat des grossistes du Tchad.
En toute saison, nous grossistes employons environ 2000 personnes que nous allons devoir mettre en chômage avec tout ce que cela comporte comme conséquences éventuelles sur leur famille. Le blocage actuel de la chaîne de distribution risque d'inspirer inévitablement la contrebande tentaculaire qui, une fois installée, sera difficile à déraciner.
Cette situation oblige certains consommateurs d'alcool à se rabattre sur les boissons traditionnelles. D'autres exposent leur vie en s'adonnant abusivement à la consommation de l'alcool frelaté. André Koduma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Les ravages des accidents de la circulation au Sénégal. Chaque année, plus de 600 morts sont enregistrés et les facteurs humains sont responsables à 80% selon les autorités de la sécurité routière. Course-poursuite, excès de vitesse sont entre autres les causes de ces nombreux accidents mortels qui ont fini par créer un sentiment d'insécurité routière au sein de la population. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Dakar est devenu le théâtre d'accidents spectaculaires et particulièrement meurtriers. Le dernier à date a fait 3 morts et 7 blessés graves, des victimes malheureuses d'une course-poursuite entre 2 camions frigorifiques. Un cas loin d'être isolé est causé par plusieurs facteurs d'après le vieux Abdou Bodian.
D'abord le facteur de l'octroi des permis, ensuite aussi le manque de civisme, le manque au niveau de l'État. Quand il y a une faute, les fautes le plus souvent ne sont pas réprimées. Alors à leur juste titre et aussi quand un gars qui est en infraction, on l'amène à la justice. 2 jours après, on le relâche. Donc tout ça, c'est des facteurs qui jouent en faveur du banditisme au volant et aussi du manque de respect du code de la route.
Une situation qui interpelle également les usagers des transports en commun. Pape Amadou Diop indexe l'attitude des chauffeurs et remet en question la compétence de certains d'entre eux.
Il y a des chauffeurs qui sont formés, qui ont le permis, mais qui ne respectent pas les codes de la route. On voit des chauffeurs tata qui font la course. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils font la course, ils font de n'importe quoi, alors qu'ils ont leur permis et autres. Il y a aussi d'autres cas, des gens qui n'ont pas de permis, des apprentis, comme on les appelle, qui viennent, on leur donne des voitures, ils conduisent sans avoir de permis. Ça aussi, ce sont des causes d'accidents. Quand je dis qu'il y a des apprentis qui conduisent sans avoir de permis, ça signifie qu'il n'y a pas de surveillance.
Au-delà du manque de surveillance, c'est la prolifération d'établissements non autorisés qui exacerbe le problème de l'insécurité routière et inquiète les formateurs agréés par l'État. Les auto-écoles ne sont pas tous en conformité avec la législation, comme l'indique Mamoudou Fall, moniteur agréé d'auto-école.
Il y a beaucoup d'auto-écoles et certains sont des clandestins. Certains conducteurs ne passent même pas dans les auto-écoles pour apprendre à conduire. Certains responsables des auto-écoles profitent de cette situation pour arranger le permis à des conducteurs qui n'ont pas le niveau. Une situation qui se passe ici au service des mines, des gens qui n'ont ni permis et qui ne savent pas conduire, encore moins apprendre le code de la route. Cette situation ne favorise que les accidents.
Pour remédier à la défaillance de certains maillons de la chaîne de la sécurité routière, l'État du Sénégal a procédé au remplacement total et à la numérisation des permis de conduire pour garantir plus de transparence dans l'octroi des permis et ainsi impacter positivement sur la sécurité routière. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Ici à Washington, le procès en destitution du président Donald Trump commence aujourd'hui au Sénat sous contrôle républicain. Les démocrates de la Chambre des représentants vont présenter leurs arguments contre le président. Les sénateurs ont solennellement prêté serment devant le chef de la Cour suprême. Le point avec Lionel Gahima.
John Roberts, président de la Cour suprême des États-Unis.
Que tous les sénateurs se lèvent ou restent debout
et lève la main droite.
John Roberts est entré dans l'histoire jeudi dernier au Sénat. Il a assermenté les femmes et les hommes qui seront les jurés dans le procès du président américain. Après celui d'Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, ce sera le troisième procès d'un chef de l'exécutif dans l'histoire des États-Unis. Les sénateurs ont prêté serment d'impartialité, mais le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a révélé qu'il travaille main dans la main avec la Maison-Blanche. Adam Schiff est le chef de cette procureure démocrate.
Imaginez que vous êtes un juré et le juge entre dans la salle d'audience et dit « Regardez, j'ai été en consultation avec l'accusé et nous avons convenu que je ne laisserai pas l'accusation appeler des témoins. Je ne laisserai pas l'accusation montrer un seul document. Aucun juré n'a jamais entendu ce genre de choses venant d'un juge, car ce serait absurde. »
Le président Donald Trump a de nouveau répété qu'il n'a rien fait de mal lors d'une conversation téléphonique en juillet avec le président ukrainien dans lequel il semblait demander une enquête sur un rival politique. À l'époque, le président Donald Trump avait bloqué 400 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine approuvée par le Congrès. L'équipe de défense du président fait valoir que la mise en accusation et le procès n'auraient jamais dû avoir lieu, car l'aide à l'Ukraine a finalement été débloquée sans l'ouverture d'une enquête sur Joe Biden et son fils Hunter. Alan Dershowitz, avocat à la défense du président Trump.
Quand vous avez quelqu'un, par exemple, qui est inculpé pour un crime, nous supposons que vous avez beaucoup de preuves, et c'est ce qui s'est passé ici. Vous avez beaucoup de preuves, cela peut aller dans les deux sens, mais le vote visait une mise en accusation pour abus de pouvoir, ce qui ne correspond pas aux critères constitutionnels pour la mise en accusation.
Les démocrates veulent appeler des témoins au procès devant le Sénat depuis que la Chambre a déposé les chefs d'accusation. Les républicains disent « niet », accusant les démocrates de confondre vitesse et précipitation.
Participez à notre magazine interactif À votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
En direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.